Wagon Livre, votre émission littéraire. Wagon Livre, un voyage au cœur de l'actualité littéraire. Présenté par Yannick Petit. Wagon Livre, c'est tous les samedis de 11h à midi sur Radion.
Très grand bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de votre émission littéraire. C'est en effet Wagon Livre et nous sommes ensemble jusqu'à midi sur Radion. Nous vous proposons aujourd'hui un entretien qui a été enregistré en public le 4 avril dernier. Nous étions à la bibliothèque de Semur en Auxois, en Côte d'Or, donc dans le cadre du Cercle des auteurs bourguignons, initié par Virginie Ravarotto de la bibliothèque médiathèque de Semur en Auxois et du libraire Cyril Lefebvre de la librairie de La Poste. Nous sommes donc en public, un public venu en bon nombre, un public curieux que je salue et je remercie. L'invité aujourd'hui est Bernard Moreau-Gaudry. Bernard Moreau-Gaudry qui est écrivain, historien d'art. Cher Bernard Moreau-Gaudry, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes invité à la fois au Cercle des auteurs bourguignons et dans l'émission Wagon Livre pour un roman écrit il y a quelques années déjà, qui n'en reste pas moins toujours accessible et passionnant et qui a pour titre « La mystérieuse Jeanne Barret » qui fit le tour du monde de 1767 à 1775, déguisé en garçon. D'abord, Bernard, vous êtes aussi sculpteur, il ne faut pas l'oublier, vous avez de grandes qualités artistiques, mais aujourd'hui, et vous habitez Autun,
oui.
Aujourd'hui, plus dans l'écriture que dans la sculpture.
Oui, parce que je me suis blessé en faisant de la sculpture il y a une dizaine d'années. Je me suis arraché l'épaule et j'ai du mal à sculpter maintenant. Donc je passe beaucoup plus de temps à l'écriture.
Alors intéressons-nous maintenant à cette Jeanne Barret. Et d'ailleurs, il y a un adjectif dans le titre de votre roman qui nous interpelle. C'est l'adjectif « mystérieuse ». Pourquoi mystérieuse ? Parce qu'elle se travestit en garçon pour accompagner l'homme qu'elle aime sur les mers aux quatre coins du monde ? Ou est-ce qu'il y a aujourd'hui un mystère sur la réelle identité de cette Jeanne Barret ? Où est-elle née ? Enfin Bernard, est-ce que vous pouvez nous présenter Jeanne Barret ? Et pourquoi mystérieuse ?
Mais j'ai beaucoup travaillé sur Jeanne Barret avec un de mes amis qui est Gilles Pacot, qui est un naturaliste. Moi je suis un littéraire et lui c'est un scientifique. Donc on a travaillé tous les deux, on a travaillé pendant des années. Alors, mystérieux Jeanne Barret, parce que y a encore plein d'inconnus. Pendant des années, tous ceux qui ont travaillé sur Jeanne Barret et qui ont écrit sur Jeanne Barret ont dit qu'elle était née en 1740 à La Comelle, un petit village au pied du mont Beuvray, en Saône-et-Loire, non loin d'Autun. Or, on s'est aperçu... On a trouvé récemment que cette Jeanne Barret-là est morte, en fait, 2 ans et demi après, dans la commune voisine. Enfin, on a trouvé le registre des décès, des enterrements du curé de la paroisse, donc qui indique que cette Jeanne Barret-là est décédée donc, dans sa prime enfance. Alors, qui est la véritable Jeanne Barret ? On n'en sait rien. Ce qui paraît pratiquement sûr, parce qu'elle a donné le nom de son père, le nom de sa mère. Alors, le père, c'était un paysan très, très pauvre, vraiment pauvre, hein, un journalier, paysan sans terre, paysan qui louait ses bras à celui qui voulait bien l'employer. Et ce Jean Barret, il a eu 5 épouses successives. 5 épouses parce que les malheureuses mouraient, sont toutes mortes relativement jeunes et la plupart sont mortes en couche. Donc, pour élever les enfants, ben, ils se remariaient Et il y avait une famille donc recomposée, absolument énorme, avec plein de petites filles qui s'appelaient toutes Jeanne. Voilà, ce qui fait qu'on a, y a beaucoup de confusion. Et on ne sait toujours pas qui est la vraie Jeanne Barret. Alors en plus, Jeanne Barret nous a compliqué les choses parce qu'elle a passé son temps à se déguiser en garçon, mais aussi à porter d'autres noms. Par exemple, elle a vécu à Paris avec son amant Commerson et à ce moment-là, elle se faisait appeler Jeanne de Bonnefoy. Et elle a porté aussi d'autres noms. Voilà, donc un personnage... un peu énigmatique, on ne sait pas tout. On découvre encore des choses, on a découvert il y a 2 mois encore quelque chose sur elle, on apprend doucement. Mais c'était le 18e siècle. Le 18e siècle, c'est une époque où les femmes, on s'intéresse peu aux femmes. On s'intéresse peu à l'histoire des femmes. Et on a peu de documents écrits sur Jeanne Barret. Alors qu'on a... une immensité de documents sur son amant, Philibert Commerson.
Alors, je reviens aussi sur l'identité de l'ouvrage. Vous dites, vous écrivez que c'est une non-fiction. Alors, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est romancé sur la fin, par exemple, bon, on va s'arrêter à Bougainville, à l'expédition de Bougainville, avec Jeanne Barret, donc travestie en homme, dans un univers que vous imaginez exclusivement masculin de marin, comment fait-elle pour masquer sa féminité ? On va y revenir. Et puis, on la retrouve à la fin du roman. Je ne veux pas trop vendre l'histoire de Jeanne Barret, ce qu'elle va devenir à l'issue de l'expédition, mais elle va bien être débarquée, reniée par Commerson.
Elle va avoir plusieurs vies. Elle a eu sa vie de petite fille pauvre dans le Morvan. Elle a eu une vie à Paris de 3 ans avec Commerson sous le nom de Jeanne de Bonnefoy. Et puis l'expédition terrible pour faire le tour du monde, elle est reconnue, elle est débarquée à l'île Maurice avec Commerson. Et à ce moment-là, les deux amants se sont séparés. Alors on ne sait pas pourquoi. Est-ce qu'ils étaient là l'un de l'autre? Peut-être que cette promiscuité épouvantable dans un espace réduit sur le bateau leur a rendu la vie difficile. Il y a eu aussi à l'île Maurice, la société était beaucoup plus puritaine que la société de l'Hexagone, que la société en France. On était une fille seule, non mariée, ça passait très mal dans la bonne société de l'île Maurice. Mais là, elle a mené une autre vie complètement différente. Et elle rentrera en France ensuite, elle aura encore une quatrième vie différente.
Donc tout cela, bien sûr, est raconté dans le roman. Par conséquent, vous écrivez, Bernard, pendant 2 siècles, tous ceux qui ont écrit sur Jeanne Barret se sont extasiés sur cette relation hors du commun. Les descendants de Commerson ont entretenu la pieuse légende de la servante dévouée à son maître jusqu'à la mort. Ce n'est donc pas tout à fait vrai.
C'est pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout.
Jeanne Barret, j'aimerais quand même, il faut expliquer comment naît cette histoire d'amour entre Jeanne Barret et Philibert de Commerson. Alors Commerson, donc, c'est un naturaliste émérite qui travaillera un temps au Jardin du Roi, ce qui est aujourd'hui le Jardin des Plantes, figure scientifique remarquée, sollicitée finalement par les organisateurs de cette expédition qui sera dirigé par Bougainville. Alors, comment s'opère et où Jeanne Barret et Commerson se rencontrent-ils ? Là, on revient en Saône-et-Loire.
Oui. Alors, Jeanne Barret a mené la vie des petites filles de la campagne, des petites filles pauvres. Elle a dû garder des troupeaux. Et puis, on sait que dans son village, s'était installé un naturaliste. Enfin, quand je dis naturaliste, c'était plutôt un rebouteux, quelqu'un qui connaissait les plantes et qui soignait par les plantes, qui s'appelait Glardon, qui était suisse et qui s'est installé dans son village. Et on pense que Jeanne Barret a été employée par cet herboriste suisse pour lui ramener des plantes. on pense qu'elle s'est intéressée aux plantes, qu'elle courait les bois et les champs et le bord des rivières. Et puis, quand elle a été un peu plus âgée, elle est allée à Toulon-sur-Arroux, où sa sœur s'était mariée avec un meunier. Et elle a été embauchée, ça se faisait à l'époque, par sa sœur comme gouvernante pour s'occuper de la maison. Et il y avait à Toulon-sur-Arroux le médecin Philibert Commerson, qui venait de perdre son épouse au moment de l'accouchement. Il y avait un petit garçon. Donc il a vraisemblablement embauché une nourrice et il a embauché aussi quelqu'un pour tenir la maison. Voilà. Et c'est comme ça qu'ils sont rencontrés. Et ce qu'on peut imaginer, parce que là, il faut imaginer... Philibert Commerson s'est rendu compte qu'elle s'intéressait aux plantes, qu'elle connaissait les plantes, bien qu'elle soit totalement illettrée. Et il a dû lui demander de l'accompagner, et ils sont partis tous les deux à travers champs, à travers bois, etc. Et ce qui devait arriver est arrivé. La relation professionnelle de maître à servante et aussi de deux personnes qui s'intéressaient aux plantes, eh bien, Commerson l'a mise dans son lit. Voilà.
Mais ils ne se marieront jamais.
Ils ne se marieront jamais. On pense, moi je suis persuadé, en lisant les lettres de Commerson, que Commerson avait l'intention de l'épouser. Mais l'époque, imaginez l'époque, le 18e, c'est pas notre époque. Au 18e, un petit noble, on pouvait pas envisager qu'il épousât sa servante. Ça ne se faisait pas. Ça risquait de causer un scandale. On pense que Commerson a eu très peur de venir présenter Jeanne Barret à sa famille.
Bernard, je vous interromps. Commerson, dans le roman, est tout de même un homme qui rêve de promotion sociale.
Absolument.
Donc, pour lui, c'est la promotion sociale, être reconnu au plus haut niveau, notamment par le roi Louis XV, ça passe peut-être avant cette relation avec cette petite jeune femme morvandaine aux origines douteuses.
Je suis persuadé qu'il avait l'intention de l'épouser, mais ses amis... Alors, il avait été appelé à Paris, au Jardin du Roi, qui correspond maintenant au Jardin des Plantes, et... Il avait tout autour de lui un groupe de savants, de scientifiques, de philosophes, et tous ces gens-là se retrouvaient. Et en fait, tous ces gens-là, c'était soit de la haute bourgeoisie, soit de l'aristocratie. Et tous ces gens-là lui ont dit « Tu ne peux pas faire ça, c'est pas possible ». Et donc, il n'a jamais épousé Jeanne Barret.
Si vous le voulez bien, cher Bernard Moreau-Gaudry, nous allons marquer un premier intermède musical. Ensuite, vous nous présenterez cette expédition et Bougainville. Quel était le but de cette expédition qui va débuter fin de l'année 1766 avec deux navires, La Boudeuse et L'Étoile. Mais on en parle après le premier intermède musical. Je vous rappelle que cette émission a été enregistrée en public dans le cadre du Cercle des auteurs bourguignons. Nous revenons d'ici quelques minutes.
Thank you. aspect of this report with respect to alcoholism and the anecdotal references of resistance by agency leadership to accepting advice or criticism about the fitness and readiness of individuals for spaceflight.
Retour avec Bernard Moreau-Gaudry pour son ouvrage, son roman. C'est un roman, Bernard, c'est pas un essai. Avec beaucoup d'éléments érudits, sérieux, et des reproductions aussi des écrits des protagonistes, Commerson, Bougainville ou d'autres personnes. On travaille sérieux.
Ah ben c'est un travail sérieux, c'est un travail scientifique et littéraire.
J'en rappelle le titre, La mystérieuse Jeanne Barret qui fit le tour du monde de 1767 à 1775, déguisée en garçon. Je rappelle que notre émission a été enregistrée le 4 avril dernier à la bibliothèque de Semur en Auxois dans le cadre du Cercle des auteurs bourguignons avec un public passionné et curieux. Juste avant la pause musicale, Bernard Moreau-Gaudry, j'avais précisé que je souhaitais que vous nous présentiez à la fois cette expédition qui va être dirigée par Louis-Antoine de Bougainville. Alors, quel est l'objectif de cette expédition financée par le pouvoir royal ? Et présentez-nous un peu Bougainville qui va solliciter son ami Commerson et d'autres scientifiques.
Oui, mais il faut savoir qu'au XVIIIe siècle, il y a eu une véritable passion pour les voyages et pour la découverte du monde. Alors il y avait l'influence des philosophes comme Rousseau qui incitait les gens à aller à l'autre bout du monde pour à la recherche du jardin d'Éden et du bon sauvage. Voilà. Alors, Louis XV a voulu lancer une expédition autour du monde. On connaissait à l'époque à peu près toutes les parties du monde, mais le tour du monde n'avait pas été fait véritablement. On partait dans une direction, soit à l'est, soit à l'ouest. Mais faire le tour, ça n'existait pas. Et Louis XV a voulu lancer une expédition autour du monde, dans un certain secret, parce que il y a eu un but accessoire qui était de récupérer des épices dans les territoires contrôlés par les Hollandais pour les replanter ensuite dans des territoires qui dépendaient de la France, c'est-à-dire par exemple l'île Maurice qui s'appelait à l'époque Île-de-France. Et Bougainville avait aussi reçu comme mission de régler des problèmes territoriaux dans le sud de l'Amérique. Voilà. Donc il y avait un but officiel, tour du monde, et puis il y avait différents petits buts accessoires. Alors Bougainville était un navigateur, mais c'était surtout un philosophe. Je pense qu'il n'avait pas des qualités de navigateur absolument extraordinaires. Il a failli s'échouer plusieurs fois. Il est resté célèbre parce qu'il a rédigé son voyage, le fameux voyage de Bougainville, qui a donné lieu par Diderot au supplément du voyage de Bougainville. Et on a aussi un texte de Philibert Commerson qui s'appelle Postscriptum, qui a été édité par un de ses amis qui était resté en France.
On reviendra peut-être sur le mythe du bon sauvage, parce que l'expédition va découvrir une île enchanteresse que nous connaissons bien aujourd'hui, mais qui est en tout cas racontée avec sa grande liberté sexuelle, ses vaillées. Enfin, c'est vraiment de très belles pages exotiques. Sur l'expédition, effectivement, Jeanne veut accompagner son amant Commerson, et effectivement, il est bien précisé. Là, je pense que ça fait partie de la législation maritime royale. Je cite, par ordre du roi, la présence de toute femme sur un bateau de sa majesté est interdite. Alors, il s'agit de contourner l'interdit, et c'est là que ça devient captivant.
Oui, les femmes étaient interdites sur les bateaux royaux et les lapins. Les lapins parce qu'ils dévoraient les cordages. mais Jeanne Barret risquait au minimum, si elle était découverte, d'être mise au fer à fond de cale, mais elle pouvait aussi être passée par-dessus bord. Et à l'époque, la marine royale, c'était quelque chose de très sérieux.
Mais Commerçon aussi prenait un risque.
Commerçon prenait un risque. Alors, elle s'est donc... Alors, au début, Commerçon, apparemment, ne voulait pas qu'elle vienne avec lui, et elle a insisté. Alors, est-ce que c'était par amour qu'elle a voulu suivre? Est-ce que c'était par amour des plantes? Est-ce que c'était par amour du voyage? On n'a aucun document pour cerner le cœur de cette jeune femme. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle a réussi à convaincre Commerçon. Donc, elle s'est bandée la poitrine, elle s'est habillée en homme, en valet, et elle s'est fait passer pour un garçon. Tout en ayant passé un accord avec Commerçon, quand elle a été découverte, parce qu'elle sera découverte, elle aura dit ben, « j'ai trompé mon maître, Philibert Commerçon ne savait pas du tout que j'étais une femme ». Voilà.
Et ça fait passer pour un eunuque aussi. Hein.
Oui, alors, au bout d'un certain temps sur le bateau, certains marins l'ont trouvé un petit peu efféminé. Elle a dit « mais oui, je suis efféminé parce que je suis un eunuque, j'ai été châtré, ce qui explique ma voix un peu, un peu plus féminine, qui explique mes manières, voilà, mais je suis un homme.
Ben » Alors, la difficulté pour... Jeanne Barret, donc, qui s'appelle Jean Barret et qui est officiellement le valet de Commerçon sur le navire, c'est des choses tout simples. C'est par exemple comment faire ses besoins quand on est une femme et ne pas... Parce que les marins font des concours de jets d'urine, hein, en fait.
C'est mais ça, bien hein, sûr.
C'est à qui pisse le plus loin, si je puis me permettre. Et Jeanne, que tout le monde pense être un homme, même s'il y a au bout d'un moment des doutes, ne veut pas participer à ces concours, et pour cause. Et alors, c'est le fameux épisode du lieu du cabinet des anges sur le navire qui a un lieu bien particulier, Bernard Moreau-Gaudry.
Alors, normalement, sur le navire L'Étoile, il y avait à l'avant du bateau un caillebotis. Donc c'est là que les marins allaient pisser, faire leurs besoins, se laver le linge, tout ça, ça tombait à l'eau, c'était parfait. Mais Jeanne, elle ne pouvait pas. Alors elle a eu la chance quand même, Commerçon avait exigé, en disant qu'il avait un matériel scientifique énorme, d'obtenir la cabine du capitaine. Et... jointoyant la cabine du capitaine, il y avait ce qu'on appelait des bouteilles. Alors, les bouteilles, ce n'est pas des bouteilles de vin. Les bouteilles, c'est un système de toilette qui se rapproche un peu de ce qu'on connaît. Quoi. Voilà. Et donc, chaque fois qu'elle pouvait aller dans la cabine de Commerçon, eh bien, elle faisait ses besoins. Mais enfin, elle a dû avoir des difficultés absolument considérables. Ce qu'on sait, c'est que... Les marins, quand ils sont passés sous l'équateur, eh ben, ils se baladaient torse nu sur le pont du bateau, et elle ne pouvait pas. Elle était la seule à être boutonnée jusqu'au cou, trempée de sueur, etc. Quand les marins, parce qu'il y a un moment, les mousses, à la fin de l'expédition, les mousses sont jetées sur elle au cours d'une escale. Ils l'ont déshabillée, ils sont aperçus que c'était une femme. Et quand ils l'ont déshabillée, ils ont trouvé que sa peau était complètement abîmée, qu'elle avait des boutons, des rougeurs partout, parce qu'elle ne pouvait pas se laver correctement, parce qu'elle était toujours en sueur sous ses vêtements, qu'elle gardait les mêmes vêtements, etc. Donc des conditions de voyage certainement épouvantables, quoi.
Certes, Commerçon, le capitaine lui laisse une belle chambre, hein, je crois 6 mètres sur 5, parce que Commerçon a beaucoup de matériel et puis il veut herboriser, donc, notamment avec l'aide de son valet Jean Barret, qui est en fait Jeanne Barret. Mais effectivement, si Jeanne reste dormir avec Commerçon, ça va jaser sur le navire, parce qu'en plus, c'est un milieu d'hommes, on ne se fait pas de cadeaux. Et comme vous le racontez bien dans le roman, Bernard Moreau-Gaudry, Jeanne dort avec donc tous les marins, il y a le poulailler, parce qu'en plus, ce qui est extraordinaire, c'est se rendre compte ce navire qui s'appelle l'Étoile, sur lequel se retrouvent Commerson et Jeanne Barret. C'est un navire, alors c'est un magnifique 3 mâts, 33 mètres de long,
oui.
Mais on y emmène des denrées alimentaires, des provisions. Alors, il y a vraiment du bétail vivant.
Il y a
un poulailler.
On a emmené plein de bétail. On a emmené de quoi manger pendant 17 mois. Il fallait prévoir. Donc, on emmenait la nourriture. Alors, des moutons, des chèvres, des cochons, des volailles. On emmenait aussi le bois pour faire le feu. Et sur le tillac, sur le pont, il y avait des tas de bois absolument énormes.
Du vin.
On emmenait de l'eau et on emmenait du vin. On emmenait toute cette nourriture parce que le bateau sur lequel étaient Commerson et Jeanne Barret était ce qu'on appelait le navire de charge. Il y avait le navire amiral où était Bougainville et il y avait le navire de charge qui devait assurer justement l'approvisionnement de l'expédition. Donc un navire complètement surchargé. Vous l'avez dit, 33 mètres de long, mais 9 mètres 21 de large, 4 mètres 22 de creux, c'est minuscule. Là-dessus, au milieu des cochons, des moutons, il y avait 117 hommes d'équipage, officiers et hommes d'équipage, entassés là-dedans. Jeanne Barret, elle, en tant que valet, elle couchait dans un entrepont supplémentaire qui faisait 1,60 m de haut et qui jouxtait immédiatement le poulailler, c'est-à-dire l'endroit où on enfermait les volailles avec des grillages. Et ce qu'il faut savoir, c'est que 4 jours après le départ de l'expédition, il y a eu une tempête terrible. Beaucoup de marins ont été malades, mais la plupart des animaux sont morts. Les volailles sont mortes. Alors imaginez dans cette petite entrepont l'odeur épouvantable. Voilà, on sait que Jeanne Barret n'avait même pas de hamac, il n'y avait pas la place de tendre des hamacs. Les mousses et les valets, comme Jeanne, couchaient sur les caisses, sur les bagages qui étaient là.
Il y a très peu de confort pour Jeanne Barret,
sans
compter les ronflements, les odeurs, effectivement.
Oui, oui.
Alors, il y a aussi l'eau, effectivement, provision d'eau, mais l'eau s'accroupit très vite. Mais il y a une machine, la cucurbite.
Oui.
Ah ça, Bernard, qu'est-ce que la cucurbite?
C'était une machine pour récupérer l'eau de mer et la transformer. Une invention formidable, mais c'était énorme, une énorme machine qui prenait de la place et on ne la faisait pas marcher tout le temps. C'était une...
Alors, cette expédition de Bougainville, Bougainville est parti un petit peu plus tôt. Lui, il est parti de Brest, ne m'abuse. Il part donc sur un navire qui s'appelle
La Boudeuse.
Et Commerson et Jeanne et d'autres scientifiques et une centaine d'hommes donc sont sur l'Étoile. Le but, c'est de se retrouver à Rio de Janeiro.
Oui.
C'est ça. Le...
Oui, d'abord à Montevideo.
Ah, oui,
mais quand le bateau arrivera à Montevideo, Bougainville est déjà parti et il est à Rio de Janeiro. Voilà.
Et alors, à un moment, les deux navires se retrouvent, heureusement. Et puis, il y a la découverte d'une île, mais on va en parler après une nouvelle pause musicale, un peu de suspense. Je rappelle que c'est Wagon Livre, enregistré le 4 avril dernier dans le cadre du Cercle des auteurs bourguignons. Et c'était en public à la bibliothèque médiathèque municipale de Semur en Auxois. Nous revenons dans quelques minutes.
Oh, Je brûle nos imaginaires, le vin et les chansons d'amour en sucre me font toujours autant d'effet. J'ai peur de nous, j'ai pas envie de résister. J'ai peur de nous, la raison n'est pas notre allié. Tour à tour, on se tourne autour, sans jamais avoir basculé. Les jeux interdits, ton humour abstrait me font toujours autant d'effets. Et mes lèvres posée sur tes mains. M'aimeras-tu demain?
L'invité le 4 avril 2024 du Cercle des auteurs bourguignons, organisé par la bibliothèque médiathèque de Semur en Aussois et le libraire Cyril Lefebvre, avait choisi comme invité Bernard Moreau-Gaudry pour présenter son roman intitulé « La mystérieuse Jeanne Barret ». Merci à notre public qui nous accompagne. Et cette fois-ci, en avril 1768, Bernard Moreau-Gaudry, découverte d'une île inconnue, l'île Enchanteresse.
Tahiti.
Alors, alors là aussi, ce qui est passionnant aussi dans ce roman, Commerson découvre de nouvelles plantes, il faut leur donner des noms, et il faut donner des noms à ces terres nouvelles, pas colonisées, mais en tout cas conquises.
Oui, Commerson voulait appeler Tahiti la nouvelle utopie et Bougainville voulait appeler Tahiti la nouvelle citerre.
Bougainville, ils pensaient avoir découvert l'île de Pâques dans un premier temps.
Ils ont cherché l'île de Pâques, ils avaient entendu parler d'une île extraordinaire qui était l'île de Pâques, ils l'ont cherchée mais ils ne l'ont pas trouvée. Et donc ils sont passés au large de Pâques et ils sont arrivés quand même à Tahiti.
Et forcément, il y a la rencontre avec ces Tahitiens, ces indigènes, ces sauvages qui s'avèrent être des bons sauvages. Parce que d'abord, quand vous êtes sur un navire et que tout d'un coup vous êtes encerclé par 150 pirogues avec des indigènes dont on ne connaît pas trop les réactions, il y a de quoi avoir peur. Il faut imaginer tout de même cette Jeanne Barret qui est née à La Comelle en Saône-et-Loire. C'est pas 79, vous écrivez, en parlant du destin de Jeanne Barret, son destin aurait dû naturellement la conduire à être placée comme servante de ferme pour soigner les cochons ou plumer les oies chez un laboureur du coin. Et c'est ça moi, que je trouve extraordinaire, c'est que cette femme, quand bien même elle se travestit, se fait passer pour un homme pour vivre ce qu'elle vit au milieu du XVIIIe siècle. Et il y aura le pendant masculin à travers ce sauvage de Tahiti qui lui va embarquer sur l'étoile et qui va découvrir la France et être présenté à la cour de Louis XV. C'est un peu la même chose, mais dans le sens inverse.
Dans le sens inverse. Et un sauvage qui s'appelait Aoutourou et qui aura beaucoup de succès à Paris, qui ira au théâtre, qui sera un passionné d'opéra.
Alors il est présenté comme un obsédé sexuel. Parce que cette île qui est découverte, il y a une liberté de mœurs et une liberté sexuelle. Alors certains marins auront la syphilis.
Presque tous, oui. Les officiers.
Il n'y a pas eu que le scorbut, hein. Il y a eu aussi la syphilis parmi les maladies.
Il y a eu la syphilis. Il y a eu une espèce d'admiration des officiers de Bougainville, mais aussi des gens qui l'accompagnaient et de Commerson. Pour eux, ils avaient trouvé le jardin d'Éden. Ils ont admiré le climat de liberté sexuelle, le caractère doux et bienveillant des habitants sans vice, sans préjugés, sans besoin, sans dispute. Là, je cite Commerson. Et ils ont apprécié ce qu'ils appelaient la beauté du paysage enchanteur, la beauté des corps humains, des corps des hommes et des femmes, la beauté des mœurs. Et puis, une délicieuse absence de pudeur, l'ignorance de l'instinct de propriété, et puis le fait qu'ils adoraient la musique, la danse, les jeux, qu'ils ne donnaient pas l'impression de travailler, ils cueillaient les fruits quand ils en avaient besoin. La propriété, chacun pouvait se servir, on pouvait prendre, si on avait besoin de quelque chose, on pouvait le prendre chez son voisin, il n'y avait pas de vol, etc. Donc, ils ont fait Bougainville, une description absolument extraordinaire de Tahiti, et commerçant aussi, et je crois que c'est commerçant, donc dans son fameux post-scriptum, qui fait le portrait d'une île absolument merveilleuse. Bougainville, au début, était extasié, mais finalement, Bougainville a corrigé ça. Il a trouvé que finalement, il y avait des problèmes, les Tahitiens se disputaient, qu'il y avait des rivalités entre chefs, etc. Mais il a rencontré les bons sauvages. Est parti avec l'idée de rencontrer le bon sauvage, et il a quitté Tahiti avec l'idée qu'il avait rencontré les bons sauvages. Voilà. Et ce mythe de Tahiti, île enchanteresse, il y a encore des traces à notre époque.
Enfin, il faut dire que la notion de mythe du bon sauvage avait été tout de même 15 ans auparavant avancée par Jean-Jacques Rousseau. Vous savez, c'est la thématique de Rousseau qui dit que l'homme est bon par nature, mais que c'est la société qui le corrompt. Et ce qui m'a fait sourire et qui pourrait nous indigner aujourd'hui, c'est la notion du troc. À un moment, les Français, des soldats de Bougainville d'ailleurs, troquent un porc de l'île, un cochon, contre deux clous. Ce qui est amusant aussi, c'est que les Tahitiens découvrent les clous. Ben, y a la pacotille, toute cette verroterie sans valeur.
Ils connaissent pas le métal. Ouais. Le clou, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça permet d'assembler du bois très facilement. Non. Les clous, ça a été un matériau d'échange absolument extraordinaire. Pour nous, le clou, c'est quelque chose de banal, mais ça a été vraiment quelque chose. Quand on parle de la pacotille, on pense à des petites choses. Non, des clous, des choses dans ce genre-là, effectivement, pour les échanges.
Et puis, il y a aussi de très belles images. À un moment, c'est le chef Hérétie, donc, qui est le père, d'ailleurs, du beau Tahitien Aoutourou, et qui, en signe de paix, vient avec un bananier. C'est très joli. Tout cela est extrêmement dépaysant. L'espèce de pureté, de naïveté de ces Tahitiens qui seront peut-être un petit peu abusés aussi. Mais alors Bernard, il y a un épisode absolument savoureux, c'est celui au cours duquel, parce que notre Jeanne donc est un garçon, hein, vous l'avez bien compris, elle cache sa féminité et elle n'a pas le choix. Néanmoins, à Aoutourou, il a du nez. Et je dis ça parce qu'il semblerait que l'odeur peut-être, ou je ne sais pas si ce sont les phéromones, mais Aoutourou va être un des premiers à pressentir que le valet de Commerçon a une anomalie.
Aoutourou, qui adorait les femmes, immédiatement va se draguer Jeanne Barret. Alors les marins lui disent non, c'est pas là qu'il faut aller. Il y avait un petit marin sur le bateau qui était lui vraiment très efféminé. Faut aller vers celui-là. Non, Aoutourou s'intéressait violemment à Jeanne. Alors Jeanne va débarquer sur l'île et immédiatement plusieurs Tahitiens se jettent sur elle, en disant « va y né ». Et y a un officier qui n'était pas loin, et puis il y a Commerçon qui était à côté, ils étaient en train d'herboriser, donc ils interviennent immédiatement, ils récupèrent Jeanne, ils la collent dans un canot et ils la renvoient immédiatement sur le bateau. En fait, Jeanne Barret n'a rien vu de Tahiti, elle a débarqué, elle a dû y passer 10 minutes, et elle était attaquer. Quand je dis attaquer, pour les Tahitiens, coucher avec une femme, c'était normal. Ils offraient leur femme aux matelots et ils pensaient qu'en échange, ils avaient droit de caresser le matelot qu'ils supposaient être une femme.
Alors, il ne faut pas perdre les objectifs de l'expédition de Bougainville. Commerçon va aller herboriser, parce que Commerçon, il s'intéresse aussi à tout ce qui relève un petit peu de l'anthropologique. Bon, il aime beaucoup les pirogues, hein, ça l'intéresse beaucoup, les pirogues. D'ailleurs, il y a des reproductions de documents dans votre roman, Bernard. Je pense que ce sont des croquis de commerçants. Et effectivement...
Il dessine les pirogues, les armes, enfin tout, voilà. Tout
oui, des parures, des colliers, les objets les intéressent beaucoup. Et finalement, vous écrivez qu'il n'y a pas d'herbier de Tahiti, qu'apparemment Tahiti n'est pas très intéressante en termes de plantes ou même de faune ou de flore.
Non,
parce
que c'est une île qui est loin de tout, qui est au milieu de l'océan Pacifique. Donc il n'y a pas eu de. Les vents n'ont pas apporté des quantités de plantes extraordinaires. Donc finalement, il y a une végétation qui est très belle, mais qui est relativement pauvre. Et ils sont restés très peu de temps à Tahiti. Mais Commerson, en même temps, s'est intéressé d'organiser un jardin en offrant aux Tahitiens les plantes qu'il avait emmenées dans ses caisses en quittant la France et en offrant donc de quoi avoir un jardin. Ils sont restés très très peu de temps, mais il a eu le temps d'organiser ça.
Alors... Ça, c'est la parenthèse un peu idyllique du livre, cette île paradisiaque, la découverte de ces Tahitiens sympathiques, accueillants, curieux, qui n'ont qu'une envie d'échanger. Il y aura tout de même quelques incompréhensions, quelques violences tout de même au bout d'un moment, que les Tahitiens ne comprennent pas bien.
Parce que les Tahitiens ont voulu prendre un... Ils servaient, ils voulaient. Et il y a des matelots qui ont répondu à coups de fusil. Donc il y a eu un mort, il y a eu des blessés. Il a failli y avoir une révolte. Bon, et le beau paradis, l'idée de paradis s'éloignait. Mais finalement, ils ont réussi à se réconcilier. Puis je vous dis, Commerson, lui, était braqué dans l'idée de donner aux Tahitiens les plantes qu'ils ne connaissaient pas. En échange, il n'a pratiquement rien ramené. Mais il a ramené des outils. Il s'intéressait à la vie des Tahitiens. Il s'est intéressé beaucoup à une cérémonie funéraire, par exemple. Il s'intéressait à leurs rites, à leurs mythes. Il a essayé d'apprendre la langue tahitienne. Et à Uturu... est reparti avec eux, et Jeanne Barret et Commerson étaient les deux qui communiquaient avec Aruturu et qui discutaient à moitié en français, à moitié en tahitien. Et Commerson avait commencé un dictionnaire franco-tahitien.
Alors ça, c'est la partie effectivement exotique, paradisiaque, enchanteresse, mais il y a aussi la réalité du voyage, où il y a tout de même, alors forcément, les événements climatiques, les tempêtes, le risque pour un navire d'être abîmé. Puis il y a les maladies. Alors bon, il y a la syphilis, mais ça, c'est la suite logique d'une pratique un peu trop... Comment dire, un peu trop autorisé à Tahiti. Et il y a le scorbut.
Alors il y a surtout le scorbut.
Alors, le scorbut, c'est une catastrophe, c'est un véritable drame.
Le scorbut, c'est épouvantable. C'est la maladie des marins qui sont loin de toute nourriture fraîche. Bon, ils avaient emmené de la nourriture, mais je vous ai dit, dès le départ, les animaux sont morts. Donc il a fallu qu'ils mangent quoi ? Ils mangent des farines, des choses comme ça, et pas de nourriture fraîche. Alors, ils ont eu... Une grande partie des marins a souffert du scorbut. Le scorbut, ça se traduit par la perte des dents... Les os qui s'abîment, les nerfs qui s'abîment, une grande fatigue, et ça peut conduire à la mort. Voilà. Commerson, qui était médecin, a essayé de soigner ces gens-là, mais le voyage de Rochefort jusqu'en Amérique du Sud, ça a duré plus de 3 mois. Plus de 3 mois sans nourriture fraîche et avec de l'eau croupie et polluée. Donc ils ont été malades. Et le scorbut, ça a continué après. Parce qu'après avoir quitté Tahiti, ils vont mettre 8 mois pour arriver à l'île Maurice. Et au départ de Tahiti, ils avaient... alors, il n'y a pas beaucoup de... ils avaient emmené des volailles. Et ils se sont dit, on pourra manger du poulet régulièrement. Ce qu'ils n'ont pas pensé, ils n'ont pas réalisé que ces volailles étaient nourries avec des bananes. Et ils n'ont pas emmené de bananes. Donc les volailles, ils leur ont donné du grain bêtement. Les volailles, ils ne mangeaient pas le grain. Et les volailles sont mortes. Donc, de nouveau...
Mais ce sont les poulets tahitiens, ça, qui mangent des bananes, hein, on est d'accord.
Oui, c'est les poulets tahitiens qui mangeaient les bananes. Mais les bananes sont mortes très rapidement sur le navire parce qu'elles n'avaient pas leur bananes.
Alors qu'en fait, il suffisait de vitamine C, quoi. Citron et orange. Et ce qui est amusant, c'est que les scientifiques du milieu du XVIIIe siècle pensent que le scorbut est lié au fait que c'est lié à l'humidité des navires. C'est pour ça. Enfin, c'est très amusant parce qu'on est aussi dans un siècle où c'est le début de beaucoup de conquêtes scientifiques.
Oui, complètement.
De progrès énormes.
L'état de la médecine était très, très en retard. Commerçon, qui était quand même un petit génie médical, a réalisé qu'il fallait absolument des nourritures fraîches. Mais ils en avaient amené quand ils sont partis d'Amérique du Sud pour aller vers Tahiti. Mais à Tahiti, il n'y avait pas les oranges et les citrons qui souhaitaient trouver. Alors, Commerçon a quand même réussi à trouver un certain nombre de plantes qui étaient antiscorbutiques.
Alors, il y a le pourpier.
Oui.
Alors, il y a une plante qui est magnifique, elle s'appelle l'Alléluia.
Oui.
Et son nom, alors vous c'est expliqué, c'est parce qu'elle fleurit à Pâques.
Voilà.
C'est superbe.
Voilà, voilà. Non, mais Commerçon était un grand, grand, grand naturaliste et un obsédé d'ailleurs du naturalisme. Il passait tout son temps à travailler, à chercher. Et une fois revenu, qu'il avait ramassé ses plantes, une fois revenu sur le navire, il travaillait le soir avec Jeanne Barret dans sa cabine. Alors les marins jasaient, mais en fait, il travaillait parce qu'il fallait tout de suite classer, ordonner les choses qu'ils avaient trouvées, quoi.
Et le travail de Commerçon, donc ces herbiers, tout est conservé aujourd'hui.
On n'a pas tout, mais on a énormément de choses. Alors on a les herbiers, mais pendant toute la traversée, ils ont pêché des poissons. Il y a 600 poissons qui préparaient, hein, qui nettoyaient pour qu'ils soient qui puissent être conservés. On les a encore au Muséum d'Histoire Naturelle. Donc des poissons, ils s'intéressaient aux dauphins, ils s'intéressaient. Voilà. Avec le travail extraordinaire de Jeanne Barret, parce que ils allaient en expédition tous les deux, par exemple, en passant le détroit de Magellan tout à fait au sud de l'Amérique. C'était très dangereux, ils ont passé le détroit de Magellan, ça a duré 52 jours, et il faisait un froid absolument épouvantable. Eh bien, chaque fois qu'ils le pouvaient, Commerçon et Jeanne Barret prenaient un canot, descendaient à terre, et puis Jeanne Barret allait dans l'eau glacée, pataugeait dans la neige pour ramasser des coquillages. Vous voyez, c'est un courage absolument extraordinaire.
Oui, puis en plus, elle est chargée comme un baudet.
Elle est chargée comme un baudet.
C'est vraiment exploité.
Commerçon l'appelait sa bête de somme. Et portait les deux fusils. Et portait la carnassière. Et portait les planches, c'est-à-dire les feuilles de papier épais entre lesquelles on allait mettre les plantes qui étaient ramassées. Et portait les cartouches, voilà. Et portait les plantes qui étaient récupérées. Donc elle était chargée, comme vous dites, comme un boudet. Et elle a fait l'admiration de Bougainville et des officiers qui la voyaient travailler énormément.
Et Pierre Poivre, notamment aussi. Autre naturaliste
à l'île Maurice,
dont il est pas mal question. Alors, sur l'île de France, oui.
Sur l'île de France, Maurice. C'est-à-dire qu'on appelle l'île Maurice maintenant. Et parce qu'à l'île Maurice, on sait qu'ils se sont séparés parce que Commerçon a fait appel à des dessinateurs, à des gens pour l'aider. Et il se plaignait que ces hommes qui l'embauchaient n'avaient pas les qualités de Jeanne. Ils n'avaient pas le courage, l'énergie, la puissance de travail de Jeanne Barret.
Et alors, il y a un personnage qui apparaît, alors c'est sur l'île Maurice, c'est Bernardin de Saint-Pierre.
Bernardin de Saint-Pierre, personnage qui a écrit un roman très à la mode au XVIIIe siècle, qui était amoureux apparemment de la femme du gouverneur Pierre Poivre.
Oui, elle est obligée de lui taper sur la main parce qu'il est un peu coquin, votre Bernardin de Saint-Pierre, dans le roman.
Il était amoureux, ouais. Beau personnage. Alors, ce qui est étrange, tous ces gens-là avaient des esclaves. Parce que l'île Maurice était une île qui ne vivait que par l'esclavage. Commerson, qui était anti-esclavagiste, a eu des esclaves. Jeanne Barret a eu des esclaves. Il ne pouvait pas faire autrement. Il ne pouvait pas faire autrement parce qu'il était impossible d'embaucher quelqu'un à l'île Maurice. Il y avait 20 000 habitants à peu près, et sur 20 000 habitants, il y avait un peu plus de 1 000 blancs, si vous voulez. Il y avait 600 noirs qui étaient libres, et tout le reste, c'était des esclaves. Et le malheureux Pierre Poivre, qui était violemment anti-esclavagiste, tous ces savants-là étaient nourris de philosophie, de bonnes idées humanitaires.
Du siècle des Lumières. Hein.
C'était le début du siècle des Lumières. Et Pierre Poivre était forcé de gérer les esclaves royaux. Et il y avait un grand nombre d'esclaves royaux qui étaient... Voilà. Commerson avait acheté justement à Bernardin de Saint-Pierre un jeune esclave, et il l'avait acheté dans le but de, quand il allait rentrer en France, de l'offrir à son fils comme ami, pas comme esclave. Voilà.
Bernard, on est au terme de notre possibilité d'échange par rapport à l'émission Wagon Livre sur Radion. Je rappelle donc votre roman. C'est aux éditions du Sculpteur et qui a pour titre La mystérieuse Jeanne Barret, qui fit le tour du monde de 1767 à 1775, déguisée en garçon. Merci Bernard Moreau-Gaudry. Je salue et remercie nos auditrices et auditeurs à qui je donne rendez-vous samedi prochain à 11h, toujours sur Radion. Et puis, je salue et remercie notre public, puisque cette émission a été enregistrée le 4 avril dernier dans le cadre du Cercle des auteurs bourguignons à Semur, en Auxois. Au revoir et à samedi prochain.